Samedi Gourmet, une émission de Roger Huet.
Bonjour mesdames et messieurs, je reçois à Samedi Gourmet une amie adorable. Elle et ses ancêtres avant elle produisent depuis 1863 des élixirs de rêve, imprégnés d'histoire, le cognac et le pinot de Charente. Bonjour Bénédicte Hardy.
Bonjour Roger.
Le cognac et le pinot ont une magie puissante qui fait rêver les hommes. Votre propre grand-père, Anthony Hardy, un marchand d'alcool à Londres, a succombé au charme du cognac.
Effectivement, mon ancêtre Anthony Hardy était un propriétaire d'un magasin de vins et spiritueux à Londres. Et en se déplaçant sur la région de Bordeaux où il venait faire son marché, il est tombé amoureux de la région du cognac et a décidé d'y fonder une famille et d'en faire sa vie. Alors, il est arrivé dans les années 1850, puisque le cognac a quand même été mis sur la carte grâce aux anglo-saxons. Si vous vous référez à tous les noms prestigieux du cognac, les Hennessy, les Martel, tous ces grands noms, les Hines, ce sont pratiquement tous des familles anglophones, alors irlandaises, anglaises. Et il y avait eu une première vague d'immigrants dans les années 1700, à partir de 1715. Mon grand-père faisait partie de la deuxième vague. Et il a eu la même passion, le même coup de foudre pour cette région que la première vague d'immigrants un siècle auparavant.
Il faut avoir succombé au charme du cognac et du pinot pour les produire. Car il faut attendre des années, et parfois des dizaines d'années, pour qu'ils soient parfaitement accomplis. La patience et la générosité sont deux qualités essentielles, puisque dans bien des cas, celui qui les crée ne goûtera jamais aux merveilles qu'il a produites, car le destin les réserve pour les générations futures.
Le paradoxe pour nous, c'est d'aujourd'hui de distiller des produits que nous ne goûterons jamais. Et le travail de notre maître de chai est de faire en sorte que ces cognacs tiennent une distance et que leur qualité soit constante pour qu'elles puissent être, dans 50 années, rentrées dans des définitions et dans des âges et dans des qualités que nous respectons aujourd'hui et pour lesquelles nous nous battons.
Vous nous avez apporté plusieurs bouteilles pour déguster, mais, aux surprises, vous m'avez apporté un cognac particulier qui s'appelle les noces de diamant. Voulez-vous nous l'expliquer avant que nous commencions ?
Dans la famille, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons cherché un nom qui serait le nôtre dans la maison Hardy pour définir nos vieilles eaux de vie. Mon grand-père Armand, qui malheureusement est décédé en 1957 et donc je n'ai pas connu, avait un très grand respect pour les mariages, pour cette institution qu'est le mariage. Donc, avec un de ses cadres, qui s'appelait Marcel Garnier, ils ont eu l'idée de donner aux vieilles eaux de vie de la maison Hardy des noms de noces d'or. Alors, noces, on a eu noces d'argent très longtemps, que nous avons remplacé par le XO, qui était un nom que les consommateurs comprennent mieux. Et puis après, on a gravi l'échelle ensemble des anniversaires de mariage. Donc, nous avons dans la gamme noces de perles, puisque quand on est marié 30 ans, ce sont les noces de perles. Les noces d'or, bien sûr, pour le mariage de 50 ans. Et cette eau de vie que je vous ai amenée aujourd'hui, qui est un mariage de 15 eaux de vie de grandes champagnes différentes, vieillit séparément pendant 60 années. Parce que quand vous êtes marié 60 ans, ce sont donc les noces de diamants. La maison Hardy a toujours choisi les grandes champagnes qu'elle considère comme ayant le plus de longueur et de longévité au niveau vie. Et c'est ce qui permet à ces eaux de vie d'avoir le bouquet que vous êtes en train de respirer, Roger, et d'avoir cette longueur en bouche inimitable que très peu d'eau de vie, sauf les grandes champagnes, peuvent apporter à l'amateur averti. Donc cette eau de vie a quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'est pas trop boisée. Nous avons fait très attention. C'est de l'uniblanc, le cépage est donc l'uniblanc, et il a vieilli dans des fûts de limousin pendant toutes ces années.
La robe est magnifique. Elle est assez foncée, mais pas trop.
Non, c'est une démarche que nous faisons. Nous ne sommes pas vraiment dans les cognacs très boisés. Ça, c'est un choix de la famille et de la maison et de notre maître de chais. Donc, nous aimons les produits le plus naturel possible.
Et bien sûr, il fait des larmes dans le verre, tellement...
Il a de longues jambes.
Ah, de longues jambes. C'est déjà tellement invitant. Et les arômes.
Ah, les arômes. Et si vous laissez dans ce verre quelques minutes s'ouvrir, pour les vieux cognacs, je recommande d'ailleurs de les ouvrir bien avant de les déguster. Parce que les arômes se développent au fur et à mesure. Le cognac est comme une fleur qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez vraiment ce qui vous frappe, les odeurs de caramel naturel, de vanille qui viennent du bois. Et progressivement, et c'est tout l'art de la distillation, de cette double distillation que nous faisons dans notre région, vous avez des senteurs beaucoup plus prononcées d'épices, de cannelle, de gingembre, de fruits confits, qui sont très particuliers et qui se développent au fur et à mesure des minutes que vous le laisserez dans le verre. Avec des verres tulipes, vous avez une répartition des arômes et un bouquet beaucoup mieux distribué. Le grand privilège d'avoir des audits de cet âge-là, c'est que justement l'alcool est complètement fondu à ce moment-là et que quand vous avez un verre de cette qualité, ce qui vous reste, même si vous le videz, ce sont des arômes extraordinairement charmeurs et très envoûtants.
Et celui-ci, c'est vraiment un cognac charmeur et envoûtant.
Oui, c'est un cognac merveilleusement fondu. Moi, c'est le mot que j'utilise, aussi bien au niveau de son bouquet qu'au niveau de son goût, de son palais, avec une longueur en bouche exceptionnelle.
Exceptionnelle.
Exceptionnelle et qui ne laisse aucun feu. Aucun, on n'a pas l'impression que c'est du cognac.
Le cognac tel qu'il... C'est vrai, il ne laisse pas ce feu.
Non.
Non, c'est tout est en douceur.
Tout est en finesse.
Oui. C'est une caresse.
Voilà, voilà, c'est une caresse. Je me souviendrai de ça, Roger. C'est un très beau mot, belle définition.
Vous m'avez vraiment gâté, car je vois devant moi une bouteille de Hardy XO.
Oui, alors cet Hardy XO est quelque chose pour lequel nous avons beaucoup de succès récemment. Je dirais qu'il a fallu du temps pour mettre dans la tête de beaucoup de consommateurs que il y a des petites maisons qui existent à côté des très grandes. Et là, cette année, on a eu la grande chance, le 21 mars dernier, d'obtenir dans un concours de New York qui s'appelle Ultimate Spirit Challenge. Cet XO vient d'obtenir la meilleure note qu'un cognac ait jamais obtenue, c'est-à-dire 98 sur 100, le Chairman's Trophies. Et ça nous a fait un plaisir fou parce que ces eaux de vie sont des eaux de vie que mon père, mon oncle ont contribué à choisir. Ce sont des grandes et petites champagnes, mariées à peu près en égalité, 51% de grandes champagnes et 49% de petites champagnes pour faire une fine champagne, avec des eaux de vie qui ont entre 20 et 25 ans. Et je dois dire que le Québec est un amoureux de ses cognacs et que, à notre petit niveau, nous avons réussi à avoir, une cour des fans qui suivent l'arrivée à la SAQ de ces bouteilles. Et hier, j'étais en tournée du côté du lac Saint-Jean et dans le Saguenay et j'étais émerveillée de voir combien les conseillers en vin, ici à la SAQ, font un travail extraordinaire d'information au niveau des consommateurs et combien ce cognac a déjà une reconnaissance auprès des consommateurs.
La robe, c'est comme une pierre précieuse. Elle est tellement brillante, mais vraiment brillante. Une couleur qui fait rêver.
C'est sûr, c'est une couleur de vraiment qui... C'est un nombre d'années pour arriver à ces robes, qui sont à la fois limpides, et c'est très important que les robes soient limpides. Alors certes, quand ils vieillissent dans le bois, comme c'est le cas de tous, eh bien, il y a des petites particules dont il faut se séparer. Après, le cognac est passé au froid pendant quelques jours, pour justement que se solidifie le reste des impuretés. Et ensuite, il est passé sur un filtre sur terre, et c'est la raison pour laquelle le cognac est très brillant. Donc il faut quand même des cognacs qui aient de la structure et beaucoup de matière pour qu'ils résistent à un traitement si barbare qui leur enlève quand même beaucoup de structure, mais il faut réussir à ne pas les appauvrir. Et c'est la difficulté du travail du maître de chais.
Et les arômes de pétales de rose et de vanille.
Ah ça, la vanille, c'est le bois. vraiment. Mmh. Et les pétales de rose, c'est ce que vous avez dans le... Dans les, à mon avis, dans les cognacs de cet âge-là, qui ont entre 20 et 25 ans. Autant le premier que vous avez goûté tout à l'heure, notre danse de diamant, est plus dans les épices.
Oui.
Et dans, les, dans un côté un peu plus confituré, autant celui-ci est encore très frais. Donc, il a ses saveurs de florales, et notamment pétales de rose. C'est une bonne définition.
Il est gras et crémeux, avec des notes de date également.
Avec des notes de date, oui.
De cuir. De tabac.
Ah, le tabac. Ça, c'est un beau mariage.
De butterscotch.
De butterscotch. Toffee, on m'a dit hier. Et je trouve que c'est une bonne comparaison.
C'est vrai. Et puis, en bouche.
Ah. Et là aussi, je trouve que notre maître de chair a réussi un fondu. Il n'y a aucune agressivité quand on boit ce produit. C'est totalement harmonieux tout de suite.
Élégant, luxuriant.
Ah, ça c'est... Je vais lui dire, il sera flatté.
Et une finale...
Très longue.
Tellement longue. Un petit peu de vanille en bouche, d'ailleurs.
Oui, un peu de vanille.
Qui est parfait. Parfait. Avec un Monte Cristo en fin de repas.
Oui, c'est une bonne alliance.
C'est le bonheur.
C'est le bonheur. Je vois que vous êtes un connaisseur, Roger.
Merci. Nous allons terminer cette magnifique dégustation avec votre Pinot des Charentes Coque d'Or. Plus modeste que le cognac et pourtant si parfait, si délicat. Il provient du jus de raisin de la région de Cognac, en début de fermentation, auquel on ajoute du cognac de grande qualité. Et vous utilisez divers cépages, je crois.
Effectivement, il y a plusieurs cépages. Alors, vous savez que la région de Cognac a connu un grand drame à la fin du XIXe siècle. C'est qu'elle a été dévastée, comme d'autres régions vinicoles françaises, par cette crise du phylloxéra, qui est une maladie qu'on n'a toujours pas éradiquée. Et qui malheureusement avait ressurgi en Californie il y a une quinzaine d'années. Donc à l'époque, la région de Cognac était essentiellement plantée de deux cépages qui étaient le Colombard et la Folle Blanche. Bon, ces deux cépages ont énormément souffert et ils ont été remplacés tout à la fin du 19e siècle, après cette crise, par l'Uniblanc, qui est maintenant majoritairement ce qui domine à Cognac. Mais il reste un peu de Folle Blanche, il reste du Colombard, il reste un peu de Sémillon, et ce sont des cépages que nous utilisons dans notre Pinot Blanc. Alors, au Québec, nous n'avons que le Pinot Blanc, mais en France, nous avons dans la même bouteille un Pinot rosé. Et pour là, nous utilisons des cépages de Merlot et des cépages de Cabernet pour donner cette belle couleur rosée. Voilà. Mais dans les blancs, c'est essentiellement donc de l'Uniblanc, du Colombard et du Sémillon.
On l'appelle aussi la divine mistelle.
Exactement, on l'appelle la mistelle. C'est un procédé un petit peu différent. Vous savez, la découverte du Pinot s'est faite par erreur, comme Dom Pérignon qui a découvert le champagne. Quelqu'un a laissé dans un fût du cognac, a oublié qu'il y avait du cognac dans ce fût, et quand la nouvelle vendange est arrivée, il a par erreur versé son moût de raisin sur ce cognac. Et en fait, ce vin était déjà avait commencé sa fermentation, et le cognac a arrêté cette fermentation. Et quand il a réouvert son fût pour goûter, avant de passer à la distillation finale, il a été très surpris du résultat. Alors le résultat, c'est un produit merveilleux, parce que c'est un produit doux au palais, qui ne fait que 17 degrés d'alcool, très légèrement sucré, sans trop, avec des beaux arômes, et qu'on met dans un frigidaire pour le garder au frais. Et c'est une très belle expérience avec de nombreuses choses, aussi bien avec un mets qu'en apéritif ou qu'en vin de dessert.
Votre grand-père lui avait donné le nom de Coque d'Or, qui avait une signification particulière pour lui.
Oui, parce que mon grand-père avait donc choisi le coq comme son emblème. Bon, d'origine britannique, quand il a voulu s'intégrer dans notre région, quoi de choisir de mieux que le coq qui est quand même l'emblème de la France. Donc, il voulait montrer son attachement au fait de devenir français. On l'a appelé le coq d'or pour une raison très simple, c'est que ce produit, il a une robe totalement dorée. Donc, le coq d'or s'imposait pour lui. Et c'est comme ça que ce nom est tout naturellement est venu sur ses bouteilles.
Pour les Montréalais, votre Pinot Coq d'Or a aussi une signification particulière et nous avons une longue histoire d'amour avec lui.
Cette histoire d'amour remonte à votre mère bien-aimée Jean Drapeau, qui, en faisant un pèlerinage sur les terres de ses ancêtres, qui étaient donc la Charente, vous savez que même la ville de Québec a été fondée par un Charentais, Samuel de Champlain, qui venait de Brouage. Jean Drapeau, en venant sur la région de ses ancêtres, est tombé totalement amoureux de ce produit Pinot des Charentes et a décidé d'en faire l'apéritif officiel de la mairie de Montréal. Mon père, d'ailleurs, avait été reçu par lui. Et il a énormément contribué à faire que vous êtes avec la Belgique, les deux, et je parle du Québec, je ne parle pas du Canada, les deux marchés exports les plus importants pour le Pinot des Charentes en dehors de la France. Donc ça, c'est une merveilleuse aventure et qui se continue aujourd'hui parce que les jeunes embrassent le Pinot des Charentes ici de façon très agréable à voir. Et ça se voit dans nos chiffres, effectivement, puisque nos exportations augmentent tous les ans.
Vous le laissez vieillir sous bois pendant combien de temps ?
Pendant 18 mois.
18 mois.
18 mois. Après, bon, alors évidemment, dans nos réserves, nous avons des très, très vieux pinots que pour l'instant, nous ne commercialisons pas. Très égoïstement, nous les buvons. Les Charentais boivent leurs meilleurs pinots. Moi, mon mari a un petit wine cellar, une petite cave dans laquelle il fait du pinot pour lui, avec un de ses amis viticulteurs tous les ans. Et nous avons des pinots qui ont 25, 30 ans. Et c'est très amusant parce qu'ils vieillissent très bien en bois et ils deviennent la couleur d'un cognac. Quand on ouvre le fût, on ne sait pas si c'est vraiment du cognac. Mais le nez est tellement différent, il est tellement plus sucré, plus doux. Que le cognac.
Mais c'est vrai que la robe, elle est quand même... Elle est plus toastée.
Oui, plus toastée.
Plus claire, invitante.
Oui.
Et puis, il est délicatement parfumé de fleurs.
C'est vrai.
De pêche, de pain d'épices, un goût de miel.
Oui, avec, le miel est très dominant. Oui.
Très dominant, avec une toute petite touche d'amertume qui lui confère toute son élégance et suffisamment de fraîcheur pour être gourmand.
Oui.
Quels sont les conseils que vous donnez pour le servir et avec quoi ?
Alors moi, j'avoue, je l'aime énormément en apéritif bien frappé, mais j'ai découvert que ce produit était merveilleux sur une salade de fruits. Vous faites une salade de fruits frais et vous mettez une petite goutte sur les fruits, ça exhale toutes les saveurs. Je l'aime énormément aussi avec du fromage bleu. Il y a un petit dessert tout simple, quand on n'a pas beaucoup de temps, qui est de couper une poire fraîche, de mettre un beau morceau de bleu. Alors, ça peut être un fromage français comme le Roquefort, ça peut être un fromage anglais comme le Stilton, ou des bleus. Je sais que vous avez des beaux bleus aussi, maintenant, au Québec. Et quelques noix, quelques cerneaux de noix. Et vous buvez ça, les contrastes, noix, poire, fromage bleu sur ce produit, c'est une merveille. Alors, je fais aussi une recette de veau, aux asperges, et j'en mets un peu dans la sauce. Et ça donne, ça agrémente la crème, puisque je mets une touche de crème fraîche à la fin de ma recette. Et une autre recette toute simple pour vous qui êtes de tels amateurs de fruits de mer, les moules. Alors, les moules marinières toutes simples, à la fin, avant de les servir, vous mettez un trait de Pinot des Charentes dans votre sauce et une cuillerée de crème fraîche. Et ça donne des moules exceptionnels.
Mais je crois que je risquais une recette qui me paraît normale. Ajouter aussi une cuillerée à un poulet rôti.
Ah, c'est exactement comme ça qu'on le fait à la maison.
Ah oui ?
Oui.
Je ne le savais pas.
Absolument, on met une petite cuillerée. C'est très bon pour ceux qui aiment le lapin. C'est merveilleux. On a un lapin à la Saint-Ongèse qu'on fait comme ça, avec des tomates et la sauce. Il y a toujours un peu de pinot. Et déglacé. Un plat avec du pinot, c'est absolument merveilleux.
Avis à nos auditeurs, tous vos produits sont disponibles à la Société des Alcools du Québec,
absolument, n'est-ce pas ? le Coq d'Or en permanence et le XO également, aux signatures aux deux magasins de Montréal et de Québec. Nous avons nos qualités supérieures, Noce de Perle, notre 30 ans, Noce de Diamant, celui que vous avez goûté aujourd'hui. Jusqu'à la crème de la crème, qui est notre perfection, qui est le cognac de mon arrière-arrière-grand-père, dans une carafe prestigieuse de la maison Dôme.
Qui est aussi une œuvre d'art, cette carafe.
Voilà, qui est faite à la main, en tout cas pour sa base, qui est faite en pâte de verre, qui, même pour ceux qui ne pourront pas l'acheter, la regarder est déjà un déplacement.
Merci pour le grand bonheur que votre visite nous a procuré.
C'est toujours un plaisir de revenir vous voir.
Nous avons placé vos liens et ceux de votre agent La Rochelle sur le blog de notre émission. Recevons maintenant à Samedi Gourmet la porte-parole d'un événement très couru et très excitant, les apéritifs à la française. Bonjour Marilyn Demandre.
Bonjour Roger.
10 ans déjà pour les apéritifs à la française?
Oui, alors apéritif à la française, c'est une initiative de l'agence Sopexa et qui est soutenue par le ministère français de l'Agriculture. Et c'est en fait une soirée événementielle qui accueille 1000 personnes et qui a une allure très festive et qui permet donc à nos invités de découvrir et redécouvrir l'offre française agroalimentaire.
Et cette année, vous allez à l'assaut des quartiers de Montréal, car vous voulez qu'Apéritif à la française soit ouvert au plus grand nombre.
Cette année, nous allons souligner le 10e anniversaire et pour cela, nous avons ouvert un nouveau volet qui se veut un volet beaucoup plus pour le grand public. Il s'agit en fait d'apéritifs qui vont avoir lieu dans des restaurants, dans différents quartiers de Montréal.
Quelles sont les activités marquantes que vous allez nous proposer? Et à quelle date?
Alors, l'apéro de quartier, c'est une formule qui est offerte à $30, taxes incluses. Dans ce forfait, sont incluses 3 consommations gratuites plus une assiette faite par le chef du restaurant.
Et, quel restaurant?
Alors, le premier aura lieu au quai numéro 4 le 29 mai prochain. Nous aurons 5 apéros de quartier. Le premier aura lieu le 29 mai, ensuite dans le quartier Rosemont. Ensuite, nous irons le 6 juin dans le Vieux-Montréal au restaurant Saint-Clair, qui est sur la terrasse de l'hôtel Saint-Sulpice. Ensuite, nous partirons donc dans le Myland, dans le restaurant Greasy Spoon, qui est sur la rue Laurier. Et ensuite, le 20 juin, chez ma grosse truie chérie, dans le quartier Centre-Sud. Et on finira par les éclusiers par Apollo.
Ce sont des endroits qui ont de belles terrasses.
Qui permettra en fait d'avoir un apéritif très accueillant, très convivial et très informel, comme le veut la tradition de l'apéritif en France. Donc à chaque apéritif, vous pourrez découvrir nos marques partenaires, comme donc notre partenaire officiel, le cognac NC, mais aussi du vin mousseux comme Première Bulle, un vin blanc Paul Mas, ou encore Cointreau et Pinot des Charentes. Mais nous aurons aussi des produits qui seront intégrés directement dans les assiettes du chef, entre autres les moutardes, vinaigres ou les cornichons maille. Et bien sûr, pour se désaltérer, nous aurons les os, Évian et Badois qui seront aussi de la partie.
Quelle bonne idée! Est-ce que les billets sont déjà en vente et où?
Oui, alors les billets sont en vente depuis le 1er mai sur notre site web à apéritifalafrançaise.ca. Et quand vous arrivez sur notre site, on vous dirige tout de suite pour acheter les billets. Vous pouvez choisir l'endroit qui vous intéresse le plus et ensuite c'est $30, taxes incluses.
Nous avons placé tous vos liens sur notre blog dont nous donnerons l'adresse à la fin de l'émission. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Marilyn Demandre.
Merci Roger.
Merci auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens de nos invités sur notre blog dont l'adresse est www.vsgourmand.wordpress.com. Je vous attends samedi prochain à midi pour une autre joyeuse émission sur la gourmandise. Je suis votre animateur Roger Huet, à la technique était Guy Lafrance. Bonne semaine.